Maintenant, on va passer à Camille Trouvé et Brice Berthoux, donc de la compagnie Les Anges au plafond, qui, en plus de travailler avec le papier, travaille beaucoup avec la musique. Et donc, je crois qu'on va avoir un extrait de... C'est lequel? C'est Antigone? Une Antigone de papier.
Donc voilà, bon, c'est un court extrait d'une Antigone de papier qui est le premier volet de la tragédie des anges. En fait, la question que nous a posée Emmanuel quand on s'est rencontrés, c'est en quoi est-ce que la musique est au cœur de notre parcours artistique? Et c'est vrai que depuis le premier spectacle des Anges au plafond, il y a toujours eu cette question des musiciens sur scène, des musiciens qui deviennent des personnages de scène et d'une dramaturgie qui se construit autour de la musique. Donc voilà, nous ça a été une intuition au début, c'était pas... ça s'est construit petit à petit aussi dans notre parcours. Au début ça a été une intuition forte, dès le premier spectacle on avait besoin de la présence de la musique. Et puis le dialogue avec les musiciens c'est construit, c'est affiné, c'est approfondi. Et de conflits en résolution de problématiques, on est arrivé à un vrai dialogue qui prend son sens dans les deux derniers spectacles qu'on a créés ensemble. Donc ce qu'on voulait, c'est un peu vous dire les problématiques auxquelles on a été confrontés. Peut-être retracer quelques-uns des spectacles qu'on a construits avec la musique et puis les problèmes qu'on a rencontrés. Pour travailler ensemble, quels instruments communs on a mis, quels sont les instruments qu'on a en commun, quelles sont nos grandes divergences, et puis là où on a travaillé pour créer ensemble. Donc je ne sais pas si tu veux parler un peu de l'historique.
Parler effectivement des quatre spectacles qu'on a créés. Avec quatre rapports assez différents par rapport à la musique. C'est vrai qu'au début, comme disait Camille, c'était plus une intuition, une envie de travailler avec des musiciens et de la musique. Et que rapidement, c'est devenu un vocabulaire, une nécessité. Ça fait complètement corps avec notre recherche de matière. Le premier spectacle qu'on avait créé, qui tourne encore d'ailleurs, qui s'appelle Le Cri quotidien, c'était avec une violoncelliste. Et de formation classique. Et au départ, c'était plus un dialogue dans le sens où on avait déjà construit les images et qu'on cherchait un instrument assez proche de la voix humaine, puisque le violoncelle, c'est vraiment... c'est un des instruments, en tout cas une des sonorités les plus proches de la voix humaine. Et le travail, ça a été... par rapport à ce qu'on avait déjà fabriqué comme image, ça a été presque, je dirais, plus un travail d'illustration sur certaines scènes et de recherche musicale, puisqu'elle arrivait avec les suites de Bach et qu'elle est repartie en faisant des crissements de pneus de voiture et des cris de poule. Donc voilà, elle a adapté sa façon de jouer et nous, notre façon. Mais c'était plus de l'adaptation, c'était pas une réflexion commune au départ. Ensuite, on a créé un deuxième spectacle qui s'appelle Les Nuits Polaires. Et là, on a travaillé avec un bruiteur. Là, la question était, dès le début de la réflexion sur ce spectacle, c'était comment faire imaginer l'immensité du Groenland. Dès le début, on a travaillé avec un bruiteur qui s'appelle Xavier Drouot, qui est un bruiteur de cinéma. Sur l'idée de comment le son pourrait être moteur de certaines scènes, c'est-à-dire qu'on a inversé certaines proportions. C'est le son et la musique de ces sons, parce que c'est un musicien avant tout, qui nous a fait construire beaucoup d'images. Voilà. Et après ces deux spectacles, on a créé effectivement un diptyque, Antigone et Oedipe, avec sur Antigone des violoncelles musique, instruments à cordes, et sur Oedipe, instruments à vent, où là c'était dès le départ de la dramaturgie, où on s'est dit on veut ces deux instruments, enfin ces violoncelles, guimbarde et trompette, donc ces trois instruments, sur deux thématiques très différentes. Donc là on a complètement conçu ensemble, et pour le coup on a travaillé dans le travail de laboratoire dès le début, avec la première planche du radeau sur Oedipe, on a travaillé sur le son. Et on a tout construit ensemble. Et pour les premières pierres du mur en papier, pour les antigones de papier, avec les violoncellistes. Là, pour le coup, c'était un vocabulaire commun. C'est-à-dire qu'on a complètement cherché ensemble, en étant avec la règle du jeu d'être que les images soient moteurs à certains moments et que le son soit moteur. Et on a mélangé tout ça. Voilà pour notre parcours.
Donc là, pour un peu les problématiques qu'on a rencontrées en création, voilà, comme disait Brice, en fait, dès le travail autour de la table, on a invité les musiciens à partager leurs premières émotions. On s'est dit, bon, pourquoi Antigone, pourquoi est-ce qu'on a envie de raconter Antigone et de rencontrer Antigone aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'on a envie de raconter Oedipe? Et on leur a posé à eux aussi la question, c'est-à-dire, voilà, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ces deux projets, avec ou sans instrument? C'est-à-dire, vous, en tant que corps sur un plateau, que tête pensante, ou bien avec votre instrument de musique, puisqu'on a parlé du vent pour Oedipe, ou des cordes pour Antigone, où est l'angle sur lequel on va attaquer, quel est l'endroit où on va essayer de travailler? Donc ça a été le début du dialogue, a été là, autour d'une table. On a laissé passer du temps sur ces premières discussions, on a créé des petites maquettes, on a commencé à réfléchir à notre espace. Et là, les musiciens sont arrivés avec de la matière sonore, quelques débuts de composition, quelques pistes d'improvisation, et on a commencé à les confronter avec l'espace qu'on avait conçu comme une petite arène. Donc le public est accueilli avec nous, il y a tout de suite eu l'idée de comment on va occuper l'espace sonore. Voilà, c'est un espace sonore très proche, les gens sont à peine 1m50. On a fait le choix par exemple de l'acoustique. Mais ça a été une grande discussion, un grand débat, comme un parti pris vraiment de dire ok, puisque nous, en tant que marionnettistes, on a envie de travailler tout à vue, sans aucun artifice, montrer toutes les choses sur le plateau. Est-ce qu'on peut aussi, avec la musique, se passer de l'écran technique et du coup être en acoustique? Donc pour les violoncelles, pas de problème. Pour la trompette, c'était aussi une option possible. Et il y avait la guimbarde de Wang Li, en fait, qui est un des musiciens de Deep. Qui joue demain d'ailleurs dans les rencontres à Royaumont. Et voilà, il avait besoin d'une certaine sonorisation. Donc là, on commençait les débats, on a d'abord travaillé en acoustique, puis on a amené une sonorisation légère. Voilà, et il y a eu tout un dialogue sur le rapport à la voix humaine du marionnettiste non sonorisé à un instrument qui est, lui, sonorisé. Où se trouve, quand est-ce qu'on casse la bulle de magie qu'on est en train de créer, ou quand est-ce qu'au contraire on la protège? Enfin, voilà, il y a eu un débat comme ça sur le son qui était très intéressant et qui n'était pas éloigné de ce qu'on voulait raconter sur le plateau, qui faisait partie un peu de cette manière de parler de Deep. Après, on a un rapport aussi à la technique, justement, que je trouve très proche des musiciens. Nous, avec notre instrument de musique qu'est la marionnette, qui est aussi une façon de mettre à distance le récit. Aucun de nous deux n'est ni Oedipe ni Antigone, on a une mise à distance comme ça du personnage, et on se sent un peu les cousins des instrumentistes qui eux aussi transmettent leurs émotions à l'instrument, et pour arriver à leur art sont obligés de passer par des gammes, par des périodes de travail d'instrumentiste. Et nous aussi, donc dans les périodes de répétition, on avait chacun les moments où il y avait le marionnettiste qui travaillait au miroir comme ça, les gammes de sa marionnette, et puis l'instrumentiste à côté qui répétait aussi avec son instrument. Donc là, on a trouvé des croisements un peu.
Puis la même notion de temps aussi, c'est-à-dire que quand on invente un mouvement en marionnette, une idée de scène, on sait à peu près, on se trompe toujours, mais on pense savoir le temps que ça va prendre de roder et de rendre propre une improvisation. C'est-à-dire, je dis n'importe quoi, mais on veut faire traverser un personnage et puis on veut après qu'il s'envole. On sait que pour le résoudre techniquement, ça va prendre beaucoup de temps. Voilà, on sait que voilà, le personnage va traverser, bon ça on va travailler la manip au miroir, on sait que ça va nous prendre 2 jours, mais après on sait qu'il faut l'accrocher dans les cintres avec un fil invisible, on sait que ça il faut inventer le système, ça va prendre 2 jours. On sait qu'après il va voler et disparaître là-haut et s'enflammer, ça va prendre 3 jours. Le musicien c'est à peu près la même chose, c'est-à-dire qu'on invente ensemble, on va inventer ensemble une petite scène et après il sait que lui va se retrouver tout seul en train de travailler sa trompette une fois qu'il a trouvé la mélodie. C'est comment est-ce qu'il va faire rendre ce morceau et donc l'ensemble des deux. Voilà, on a à peu près, je sais pas si c'est clair ce que j'ai, mais c'est une notion de temps identique et finalement on se rassemble beaucoup là-dedans dans le travail de recherche.
Chose encore, c'est ce rapport à la technique et donc au temps. Il y avait une volonté aussi de déplacer leur pratique d'instrument. Enfin, on a eu un peu ce débat hier avec l'ensemble de jazz, là où il y a un musicien à un moment qui a dit « moi j'ai un problème avec ma chaise ». Et bon, ça m'a fait sourire parce que c'est vrai que pour une violoncelliste, par exemple, son premier instrument de travail aussi, c'est la chaise. Enfin, c'est un peu l'objet qui va l'accompagner pendant toute sa carrière. Et la première chose qu'on leur a proposée, c'est... bon, on n'imagine pas 2 chaises sur le plateau d'Antigone, c'est pas possible, ça va pas dans le décor. Donc, est-ce qu'on peut imaginer une autre assise? Donc, on a imaginé ces branches que vous voyez dans la vidéo, là, qui sont un espèce de mikado de branches en suspension. Donc, pour elle, ça a posé énormément de problèmes techniques, c'est-à-dire que déjà, il y avait une souplesse des branches. Après, elles n'étaient plus exactement positionnées comme d'habitude, elles avaient un déséquilibre qui faisait qu'elles ne retrouvaient pas la justesse exacte. Voilà, le corps n'avait pas la même conscience de la justesse de la position. Et bon, voilà, elles devaient interroger leur pratique, balayer des réflexes acquis, et puis pour essayer de se mettre dans notre univers. Voilà. Après, on leur a proposé aussi, comme on voit dans la vidéo, que ce soit les marionnettes qui jouent du violoncelle avec les archets. Donc là encore, des questions autour de l'archet. Est-ce que cet outil, on peut le manipuler comme une marionnette, ou est-ce que l'archet est un objet pour un musicien vraiment... sacré, très, très symbolique. Donc, à travers tous ces petits pensées, comme je disais, c'était des mini confrontations, quoi. On a construit un dialogue et qui fait que maintenant, sur le plateau, je pense que leur corps est intégré aussi au dispositif scénique. Enfin, elles marchent en jouant de l'instrument, elles prennent en charge une partie de la dramaturgie. Enfin, elles sont vraiment, elles font corps avec le spectacle, quoi, à travers la résolution de tous ces petits points d'achoppement où on a dû discuter de nos pratiques.
Moi, j'aurais une question, en fait, pour rebondir, mais en fait, vous pourrez revenir après et continuer, mais à Christophe, pour savoir si, par rapport à ce que tu dis là, à l'instant, si le fait d'être, que les musiciens de ton ensemble soient en confrontation avec les marionnettistes et que ça soit assez récent, ils sont déplacés dans leur pratique, et est-ce que c'est compliqué pour eux, enfin si tu en as parlé avec eux peut-être, ou si tu as pu sentir comment ils ont appréhendé la chose au départ, comment ils ont accueilli la marionnette?
Oui, ils ont été très gentils avec elle. non, je sais pas s'il y a eu des difficultés spécifiques liées à ça. C'est plus qu'en ce moment, moi je suis en train de beaucoup les solliciter pour qu'ils aillent au-delà de leur pratique et de leurs habitudes, prise de mouvement, prise de parole, et donc là ça contribuait évidemment à devoir se lancer beaucoup plus là-dedans, parce que c'est vraiment fondamental effectivement l'attitude qu'a un musicien sur scène, s'il est comme un musicien habituel, c'est-à-dire comme ça, à regarder, comme ça, à regarder sa partition, on n'est pas du tout au théâtre, on est ailleurs, quoi, on est au concert, et juste la posture qu'il va avoir n'ouvre pas des possibilités. Donc, après, il y avait On n'a pas débriefé hier soir, j'ai pas eu de retour vraiment après spécifiquement sur le travail sur la marionnette, mais ce rapport à la scène, ce rapport théâtral à la scène, c'est vrai que c'est une éducation qu'on n'a pas forcément en tant que musicien et qui demande d'ouvrir certaines portes, quoi, et d'accepter effectivement que bah, moi, violoncelle, maintenant, elle se promène.
Son violoncelle comme ça, elle joue comme ça, elle marche comme ça, quoi.
Parce qu'à un moment, elle a accepté qu'elle pouvait le faire.
Et Camille, les musiciens font pas partie de la compagnie. À chaque fois, vous faites appel donc à des gens extérieurs. Si.
Bah, en fait, il y a une des musiciennes avec qui on travaille depuis de nombreuses années, c'est Sandrine Lefebvre, la première violoncelliste du canal historique de la compagnie. Et puis après, en fait, on leur a proposé un projet à la suite à cette rencontre autour du diptyque, qui a été vraiment une rencontre forte entre la musique et la scène. On leur a proposé aussi de créer un concert en fait qui accompagne le diptyque et qui permet aux spectateurs de rêver aux images sans les textes, rêver à ces.
Ça veut dire quoi rêver aux images?
C'est-à-dire qu'on imagine qu'en écoutant un concert qui est une sorte d'orchestration des thèmes d'Antigone et Oedipe, les spectateurs vont prolonger leur voyage, même s'il n'y a plus le texte, même s'il n'y a plus les marionnettes, même s'il n'y a plus. Donc voilà, on pousse aussi.
Plus économique.
Voilà, et on pousse les pieds, on se dit. Pardon, excuse-moi. Ouais.
Ce qui était très, très marrant, c'est que au départ, ils n'avaient pas forcément l'habitude, en tout cas tous, de la musique de scène. Donc on a travaillé. Ils ont vraiment inventé un nouveau langage, eux, avec leurs instruments. Et puis après, ils ont réorchestré et réarrangé pour la scène, mais de la musique, pour le concert, mais de la musique de scène, de théâtre. Voilà. Donc c'est paradoxal de travailler sur les images, d'oublier tout ce qui était des réflexes de concert et de finalement réarranger ça pour revenir finalement et faire un concert.
N'hésitez pas, hein, les autres intervenants, si vous avez des réactions, des questions, voilà. Ben, merci beaucoup. Vous avez des choses à ajouter, peut-être?
Juste que ça participe à une sorte de fascination mutuelle, je crois, dans notre relation dans la compagnie. Il y a une sorte de fascination entre nos pratiques. Il y a encore un mystère qu'on n'a pas élucidé, donc ça continue.
Merci beaucoup.